la dernière partie de la grande table. Caroline Brouet, c'est à vous.
Merci Antoine Mercier, puis vous restez avec nous pour interroger nos deux invités aujourd'hui qui ont écrit à quatre mains un livre, Roger Paul-Droit et Monique Atlan. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Roger Paul-Droit, vous êtes philosophe, écrivain, éditorialiste et chroniqueur à plusieurs journaux. Monique Atlan, vous êtes journaliste à France 2, productrice et animatrice de l'émission Dans quelle étagère. Et ensemble, après avoir écrit un premier livre, Humain, une enquête philosophique sur ces révolutions qui changent nos vies, paru il y a 3 ans, maintenant presque 4, chez Flammarion, vous publiez donc L'espoir a-t-il un avenir, aux mêmes éditions Flammarion, un livre qui revient sur l'histoire de cette notion, mais qui affirme aussi sa fonction politique, qui l'affirme parce que c'est une défense et illustration de cette notion d'espoir. Pour dialoguer avec vous, pour vous interroger à nos côtés, nous avons proposé à Mathieu Pot-Bonneville, philosophe, de nous rejoindre et de lire votre livre, ce qu'il a fait parce qu'il est très bon élève. Bonjour Mathieu.
Bonjour
et bienvenue
Caroline.
À vous. C'est un très beau sujet, l'espoir. C'est un sujet d'ailleurs dont nous avons abordé, que nous avons abordé hier avec notre invité Ta-Nehisi Coates, qui écrit une colère noire. Nous l'avons abordé sous un angle bien particulier, puisque Ta-Nehisi Coates disait que il n'y croyait pas. L'espoir, c'était mièvre, finalement. L'espoir, c'était nier, parce que l'espoir, c'était l'ennemi de la lucidité, et qu'il valait mieux savoir ce qui nous attendait. Et c'est pour ça qu'il écrivait cette lettre à son fils, plutôt que de lui dire « ça va aller mieux demain ». Donc on va peut-être revenir sur cette notion. Mais juste, c'est un très beau sujet. Est-ce que ce qui vous a donné envie de l'écrire tous les deux, c'est que c'est un sujet qui est dans l'air du temps, ou bien au contraire, il devrait être dans l'air du temps, et il est étonnamment absent?
Absolument.
Monique Atlan.
Absolument, je crois qu'effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'on a éprouvé. Ce sentiment presque mortifère. Et ce qui est grave, c'est que on l'a ressenti, parce que ce livre, on l'a écrit avant toute cette cascade d'événements
tragiques.
Avant
l'année 2015, vous
voilà,
voulez dire?
Absolument. Mais ce qui a été très, très frappant, c'est de voir, vous savez, vous le savez vous-même, ces sondages qui inlassablement nous disent les Français sont pessimistes, les Français n'ont pas le moral, alors que peut-être qu'il y a des pays où le moral des gens n'est pas aussi bas. Donc ça questionne. Et ce qui est très important aussi, c'est de voir à quel point il y a hiatus, un décalage entre cette expression d'une sorte de lassitude collective et ce que les gens disent de leur espoir individuel, personnel. En gros, pour moi ça va, socialement ça va pas. Et effectivement, c'était intéressant d'aller explorer cet écart-là, parce que l'espoir collectif, c'est plus que la somme des espoirs individuels. Et cet espoir collectif, on ne le voit poindre nulle part. Il est éclipsé en berne. Donc, effectivement, on a eu envie d'essayer d'explorer, de voir au nœud la fabrique de l'espoir. Comment ça s'est constitué, cette notion? On a fait ce voyage à travers les sources culturelles, religieuses, et pour essayer de, au fond, dégripper la machine philosophique, parce qu'effectivement, ce qui, moi, particulièrement m'a frappé, c'est tout au long de ce travail, c'est de prendre la mesure de combien la philosophie occidentale s'était totalement désintéressée de cette notion. Soit elle y est absolument indifférente, soit elle critique radicalement l'espoir. Et donc, ça questionne. Donc, on a voulu pointer où pouvaient se trouver les causes de cette crise de l'espoir pour essayer de faire un peu repartir, de remettre cette notion dans le débat public.
Vous, Roger Paul-Droit, dans cet ouvrage, vous liez cette crise de l'espoir à une crise de la représentation du temps.
Oui, parce que fondamentalement, espoir et temps sont liés. Du point de vue individuel comme du point de vue collectif, il n'y a d'espoir que pour ce qui va advenir, même si cette attente est liée aussi à la mémoire, au passé, à la réflexion sur l'histoire, mais c'est forcément vers le devant, vers l'avenir, que ça se joue. Or, ce qu'a montré l'historien allemand Reinhard Koselleck, c'est qu'il y a toujours un rapport entre, finalement, les attentes d'une époque et puis la manière dont elle perçoit son passé immédiat. Le Moyen-Âge, par exemple, où les évolutions étaient fort lentes, faisait que les gens attendaient pour les générations futures, grosso modo, une existence semblable à la leur, qui était semblable à celle de leurs grands-parents. En revanche, à partir des temps modernes, tout s'accélère, puisque les mutations à la fois techniques, scientifiques, géographiques, les grandes découvertes, etc., font que on a d'emblée le sentiment que ce qui va advenir va être fondamentalement différent de ce qui a été ou de ce qui est le présent. Et puis, ce qu'a montré François Hartog, par exemple, dans son livre sur les régimes d'historicité, c'est l'idée que nous vivons aujourd'hui dans ce qu'il appelle le présentisme. Autrement dit, en raison de l'échec des représentations du progrès au XXe siècle, on a fini par ne plus vouloir penser l'avenir, on a fini par se dire qu'après tout, le futur était plus à craindre qu'à désirer, et on est entré finalement dans ce rapport un peu faussé au temps, ou ce rapport inexistant, cette panne, ou cette éclipse plutôt, de l'espoir collectif.
Antoine ?
Oui, j'ai le sentiment aussi, vous le dites à un certain endroit, vous dites que c'est lié au temps et en même temps lié aussi à la possibilité d'agir. Absolument. Sur cet avenir. Et je dirais même que c'est presque ça qui est premier, c'est-à-dire la possibilité d'agir ouvre en quelque sorte le temps, ouvre une amélioration dans le temps. Est-ce que ce n'est pas plus principalement la difficulté d'avoir une prise sur les choses qui crée cette crise de l'espoir ?
Les deux sont liés, je crois que les deux sont liés. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a le temps et il y a l'action pour demain. C'est Sartre qui fait exception avec quelques autres, mais qui dit que dès lors qu'on pose une fin, alors on pose aussi évidemment l'action pour l'atteindre et on commence à espérer. Il est un de ceux, vous disiez tout à l'heure que l'espoir à côté d'un peu niais, Sartre dit dans L'espoir maintenant, c'est le dialogue avec Béni Lévy, c'est pas une illusion lyrique. Il ne faut pas seulement s'imaginer que c'est « consolons-nous, attendons, espérons, espérons », comme on dit « marchons, marchons » sur la scène des opéras italiens sans bouger, ce qui serait rien d'autre qu'une sorte de consolation vaine ou un peu creuse. Tout espoir, finalement, implique une action et même, d'une certaine manière, suppose une première action. On est entré dans quelque chose, on a commencé à agir, il y a l'incertitude, et on ne sait pas si on va y arriver, mais en même temps, il y a finalement ce rapport au faire.
Monique Atlan.
Je crois aussi qu'il y a quelque chose qu'il faut tout de suite préciser, c'est que vous disiez au début que c'était quelque chose d'un peu mièvre, l'espoir. Je
crois souvent l'idée que c'est une illusion dangereuse.
Je crois d'abord qu'il faut bien comprendre que sans action, l'espoir est impossible et que actuellement on a une sorte de tentation de se réfugier dans une forme d'espoir qui serait une sorte de pensée magique. On espère que quelque chose de l'extérieur va advenir. Vous savez, c'est tous les gris-gris de la pensée magique, l'espoir en dit leçon, l'espoir, ce que j'appelle moi l'espoir bisounours, mais en réalité, c'est absolument le contraire qu'on a voulu montrer. C'est que l'espoir, c'est quelque chose de très complexe, de très ambigu. Il y a des espoirs noirs, il y a des espoirs meurtriers, des espoirs tragiques. Et il y a aussi la nécessité dès qu'il s'agit d'espoir, il s'agit avant tout, c'est le contraire de ce que vous disiez, Caroline, c'est un exercice de lucidité. C'est-à-dire l'espoir, c'est comme une sorte de matière brute qui doit être passée au filtre d'un tamis qui déblaye tout ce qui est espoir vain, espoir illusoire, espoir négatif. Et effectivement, espérer, ça veut dire d'abord penser. Ça veut dire faire œuvre de discernement, d'une certaine façon, pour retenir ce qui va pouvoir être l'énergie première qui va donner envie d'agir.
Mathieu Pot-Bonneville.
Oui, je trouve que ce livre intervient dans un contexte très particulier. Ce qu'on pourrait dire, c'est, pour aller dans votre sens, non seulement le climat en France est un peu désespéré, mais il est presque activement désespérant. Il est désespérant du point de vue économique, parce que les sociologues ont montré tous les effets sociaux que peut avoir le fait de ne plus pouvoir espérer que ses enfants ont une meilleure situation sociale que soi. Il est peu propice à l'espoir du point de vue politique ou du point de vue climatique. Mais je pensais en préparant cette émission qu'il y a d'immenses espoirs qui traversent en ce moment l'Europe, qui partent du Moyen-Orient, qui traversent la Méditerranée, qui s'y noient parfois, qui s'entassent aux frontières nord, du côté de Calais ou de Grande-Synthe. Et ces espoirs-là, qui est au fond l'une des seules incarnations de l'espoir dans sa dimension la plus violente, l'espérance est violente, disait Apollinaire, ces espoirs-là, nous nous employons à les décourager. C'est-à-dire que par de multiples manières et aux fins d'éviter l'appel d'air, c'est la formule consacrée, nous nous employons à être désespérants. Nous nous employons collectivement, politiquement, à décevoir. Je me demande ce
qu'il en coûte à une culture ou à un pays de se présenter comme activement décevant.
Juste parenthèse, pour la France précisément, on se réjouit parfois que la France n'est pas attractive, donc on a moins de migrants que les Allemands, et c'est presque considéré comme quelque chose de positif.
Vous admettrez qu'il y a là quelque chose d'étrange. Alors c'est sur ce fond-là que vous entreprenez une réévaluation de l'espoir, une réévaluation philosophique de l'espoir, contre une part de la philosophie, en affirmant des choses, peut-être qu'on peut, on peut partir de là, parce que vous affirmez des choses qui sont effectivement à contre-courant de la tradition philosophique. Vous dites par exemple l'espoir libère. Or, la philosophie, toute une part de la philosophie considère que l'espoir est au contraire source d'une aliénation extrême, parce que nous nous rendons dépendants de quelque chose qui ne dépend pas de nous, nous nous soumettons à un avenir foncièrement incertain, et à ceux qui du coup vont nous vendre précisément les gris-gris dont vous parliez. L'espoir, c'est la matrice, chez Spinoza par exemple, de la superstition, et c'est extrêmement dangereux, la superstition, parce qu'on n'est plus libre du tout. Alors ma première question, ce serait ça: quand est-ce que l'espoir libère, et quand est-ce qu'il enferme au contraire dans une dépendance à un avenir et à ceux qui prétendent nous le vendre?
Roger Paul-Droit.
Alors la réponse la plus simple, la plus concise que je pourrais commencer à faire, c'est qu'il enferme, plus il est précis, détaillé, plus d'une certaine manière il enferme. Parce que si on vise l'accession à tel type de vision du monde entièrement déjà décrite, déjà mesurée, déjà précisée, si vous voulez, de bout en bout, plus on est dans quelque chose qui va nous illusionner et nous enfermer. Au contraire, si on imagine que l'espoir n'est pas espoir de quelque chose d'assuré, de précis, de déterminé, mais mouvement vers l'avant de la route qui s'ouvre à mesure que l'on avance et qu'on la construit, alors je crois qu'il a quelque chose de libérant. Parce que les grandes, finalement, les grandes critiques philosophiques qui traversent toute l'histoire, d'Épicure jusqu'à Comte-Sponville, différemment, en passant par Spinoza, par Schopenhauer, par Camus même, toutes ces critiques de l'espoir que nous rappelons et que nous examinons aussi, elles consistent à dire ils nous emmènent dans une illusion, une chimère, un ailleurs, alors que seul le monde de l'ici et du maintenant est celui de la lucidité et du sage. Il nous fait balloter en permanence entre la crainte et l'attente. Ça, c'est le grand argument, déjà chez Épicure, mais repris évidemment par Spinoza. C'est-à-dire que, finalement, nous entrions avec tout espoir dans une sorte de d'égarement, de quelque chose qui, finalement, ne cesse de nous agiter. Eh bien, je crois que notre démarche, et évidemment c'est pas simplement la nôtre, mais il y a Ernst Bloch, il y a Hans Jonas, il y a Sartre qui vont...
Oui, c'est ça sens. J'allais dire, c'est à peu près les seuls. Que
oui, ils sont peu nombreux, mais il est intéressant de noter qu'en pleine opacité du XXe siècle, un penseur comme Ernst Bloch est celui qui fait de l'espérance ou de l'espoir l'axe de l'histoire, de la création et de l'aventure humaine.
C'est aussi un principe d'action, Monique Atlan, parce que pas de résistance sans espoir.
Absolument, et surtout, ce qui est très frappant, c'est qu'au fond, il y a cette tentation, au fond, de jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Pour éviter la crainte, on a la crainte de la crainte, dorénavant. Donc, pour éviter la crainte, parce qu'on ne supporte pas la déception d'un espoir non abouti, alors, on préfère éliminer l'espoir lui-même. De la même façon, au niveau collectif, évidemment que le XXe siècle a été terrible, puisque les grands récits collectifs ont échoué. Les lendemains qui chantent, ça n'a pas marché. Mais est-ce pour autant que l'idée même de récit collectif doit être dorénavant invalidée? Est-ce que le récit collectif qui fut celui de la résistance, est-ce que le récit collectif des droits de l'homme, est-ce que le récit collectif qu'il faut élaborer, comme le titrait justement Mathieu Pot-Bonneville, concernant les migrants dont on n'a pas du tout pris conscience, dont on n'a pas pris la mesure, qui nous est arrivé presque par surprise, tellement on est enfermé dans notre bulle occidentale, repue d'une sorte de satisfaction au présent, immédiate, au quotidien. Effectivement, tout ça demande à nouveau la création, l'élaboration, l'écriture d'un récit collectif à nouveau. Tous les récits collectifs ne sont pas invalidables.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
L'espoir a-t-il un avenir? C'est le titre de ce livre dont nous parlons aujourd'hui en compagnie de ses deux auteurs, Roger Paul-Droit et Monique Atlan. Et autour de la table, pour vous interroger à nos côtés, Mathieu Pot-Bonneville.
Oui, je pensais, en vous entendant parler des langues de main qui chantent, à cette formule de Michel Foucault, par laquelle Michel Foucault résumait la doctrine du PCF dans les années 70. Il disait, le PCF, au fond, ce qu'il promet, c'est « pas ici, pas maintenant, pas toi ». Autrement dit, ce que reprochait une part de la pensée progressiste à ce qui a été très longtemps l'horizon révolutionnaire, c'est de nier le présent, au nom d'un futur perpétuellement repoussé, perpétuellement renvoyé à plus tard, et à exiger des militants qu'ils se sacrifient dans l'hypothèse de ce futur lointain. On est évidemment largement sorti de cette affaire-là, peut-être sorti de cette affaire-là, reste que la question demeure. Comment construire un récit collectif qui n'aboutisse pas immédiatement à expliquer qu'il faut aujourd'hui se sacrifier au nom d'un demain dont on ne sait pas trop s'il va advenir.
Est-ce qu'il s'agit de se sacrifier ou simplement de s'auto-limiter dans ses désirs d'allongement de la vie, dans ses désirs de maîtrise de tout, de la connaissance, du cerveau, pour en finir avec tout le hasard, avec la loterie génétique? Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt, effectivement, dans une sorte de jeu de balancier inverse, contraire, de réévaluer l'importance qu'on a accordée au présent et de réouvrir des possibilités de futur, parce qu'au fond, tout se passe comme si on n'était plus à même de penser en quoi que ce soit le futur. Quelqu'un disait récemment, on le dit régulièrement, un enfant qui naît aujourd'hui, naît avec 30 000 euros de dette. C'est-à-dire qu'il a d'abord comme premier horizon un problème financier, mais que surtout, on ne lui offre aucun récit, aucun désir, de s'élancer dans cette aventure qui serait la sienne et pas la nôtre.
Mais ça pose la question, Monique Atlan, de l'articulation entre l'espoir individuel et l'espoir collectif. Roger Paul-Droit.
Oui, bien sûr, mais je crois que tout est une question d'articulation, d'une certaine manière, entre l'individuel et le collectif, entre le présent et l'horizon d'avenir, et que c'est autour de ces questions-là, finalement, que l'espoir est à repenser, non pas comme un long fleuve tranquille ou une pente douce, mais comme une tension. Voilà, comme quelque chose qui est un horizon de tension. Et pour répondre à ce que faisait remarquer Mathieu Pot-Bonneville sur cette difficulté d'articulation avec le présent et le là ici maintenant. S'il s'agit effectivement de mettre le présent entre parenthèses pour vivre dans un ailleurs imaginaire qu'il faut atteindre en se sacrifiant, alors là, on est dans un espoir illusoire. On est dans un
espoir.
C'est
pas cet espoir-là que vous défendez.
C'est sûrement pas celui-là qu'on défend. On défend un espoir que nous appelons.
C'est l'optimisme.
Un exercice.
Non, peut-être. C'est pas non. Quelle différence faites-vous entre l'espoir et l'optimisme?
C'est une disposition d'esprit, l'optimisme. L'espoir, c'est une mise en acte. Une mise en acte. Il n'y a pas d'espoir sans mise en acte. Et la mise en acte, elle est à différents niveaux, mais elle est aussi dans, peut-être on ne l'a pas assez dit encore, c'est qu'il y a quelque chose de corporel, il y a quelque chose de l'affect qui se joue dans l'espoir, qui n'est pas simplement une idée. Il y a une matrice énergétique en nous qui demande à être déployée.
Alors c'est l'inverse, alors il n'y a pas de mise en acte sans espoir.
Exact.
Plutôt qu'il n'y a pas d'espoir sans mise en acte.
C'est les deux. L'espoir, si vous voulez, on a besoin de temps pour espérer et l'espoir fabrique du temps. C'est un jeu comme ça d'aller et retour entre les deux.
Antoine.
Oui, je voudrais revenir sur cette question de l'espoir dans l'avenir et l'espoir dans l'ici et maintenant. Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, on n'est pas contraint de se dire c'est un espoir qu'il faudrait retrouver ici et maintenant plutôt que d'avoir une projection
Absolument.
Et un sacrifice du présent pour le passé?
Absolument,
comme
dit Monique Atlan.
Mais alors, qu'est-ce que cet espoir ici et maintenant? Il faut peut-être le caractériser, ça veut dire quoi?
Mais ça se tricote, ça s'appelle la justice sociale qui est encore et toujours à travailler, qui reste au fond le but ultime. À quoi ça sert l'idée de l'espoir? C'est pas juste comme ça une vision mystique. Effectivement, on parle pas de l'espérance religieuse. On parle d'un espoir qui s'incarne ici et maintenant. Mais le ici et maintenant a besoin d'une sorte de profondeur de champ pour être pensé, être mis en œuvre. Il a besoin de l'expérience du passé pour ne pas répéter. quelques espoirs non aboutis, et il a besoin de cet horizon du temps. L'espoir demande une attente, l'espoir demande une incertitude. L'espoir
par la justice demande... sociale, ça peut se décréter du jour au lendemain, si je puis dire.
Ça peut s'élaborer au fur et à mesure, en tout cas.
Bon.
Roger Paul Droit, je crois que je vais mettre les pieds dans le plat. Pourquoi, alors même que vous parlez, et vous partez d'ailleurs dans votre livre du mythe du Pandore et donc de la notion formidablement ambiguë qu'est l'espoir, pourquoi vous dites l'un et l'autre qu'on a besoin d'espoir?
Parce qu'on a besoin de retrouver le chemin de cette ambiguïté, de cette double face. De quoi parlons-nous là depuis quelques minutes? Sinon de double face et d'ambiguïté, le présent, l'avenir, ici, ailleurs. On est dans cette double face en permanence. Alors, ce qu'on rappelle dans une sorte d'archéologie, un peu des notions, c'est effectivement, c'est Jean-Pierre Vernant qui a montré ça le mieux dans le mythe de Pandore comme première femme, que ce mythe-là est fondateur de la séparation entre hommes et dieux, entre l'arrivée de la différence des sexes dans l'humanité, qui jusqu'alors, selon les Grecs, n'existait pas avant Pandore, et puis savoir si Elpis, l'espoir, est-ce que c'est un antidote au mot qui s'échappe de la jarre et qui envahissent...
Parce qu'en fait, l'espoir est resté au fond.
Voilà, il est resté au fond.
Pandore, qui n'était pas une boîte.
Femme artificielle, piège, arrive, donné par Zeus à Épiméthée, et puis elle ouvre cette jarre d'où s'échappent la vieillesse, la maladie, la mort, tous les maux M-A-U-X qui vont atteindre l'humanité, et reste au fond quelque chose, l'espoir, dont on ne sait pas si c'est un dernier mal, c'est ambigu, un dernier mal qui est resté en quelque sorte coincé, ou bien si c'est l'antidote à tous ces
c'est ça, ça c'est l'ambiguïté, mais vous dites l'espoir fait vivre, comme on le dit tous.
Mais l'espoir, c'est la dimension première, c'est une forme de définition de l'humain. Bergson le dit très bien, ni les dieux, ni les animaux n'espèrent. Ils n'en ont pas besoin dans les deux cas. Et donc, effectivement, abandonner cette dimension de l'humain, c'est se s'amputer d'une forme de...
Vas-y. Non, vas-y.
C'est s'amputer de...
De quelque chose de qui est éminemment humain. Et il y a le risque d'un monde clos, d'un monde qui se ferme. Et au fond, c'est peut-être ça la définition de la barbarie. C'est quand il n'y a pas d'issue. Et l'espoir donne la possibilité de cette issue à condition qu'il soit pensé, tempéré.
Mathieu Podonville.
De ce point de vue-là, je me demande si la question si la question est bien celle que nous disions depuis tout à l'heure. La question n'est peut-être pas de savoir si nous avons besoin de l'espoir, mais de quel genre d'espoir nous avons besoin. Je veux dire par là que des espoirs, il y en a toujours. Si l'espoir vient du corps, s'il procède de ce que Spinoza appelait le conatus, la puissance de persévérer dans son être, de l'espoir, il y en a toujours. L'espoir d'encabaner son voisin, celui d'avoir 72 vierges après qu'on se soit fait sauter, avec sa ceinture d'explosifs, celui de nuire activement à ceux que l'on n'aime pas, le désir de vengeance, sont des formes ou des avatars effrayants de l'espoir. Donc la question est peut-être davantage de savoir de quel genre d'espoir nous voulons, si nous pouvons en décider, quelles en sont les conditions au fond. C'est-à-dire quelles seraient les conditions d'une réorientation de ces désirs qui ne cessent pas, pour autant que les gens sont vivants, de s'exprimer, parfois de s'exprimer pour le meilleur ou pour le pire.
Je crois que ça a été évoqué dans ce journal, c'est-à-dire qu'il y a effectivement cette question décisive du réinvestissement du politique par les citoyens, et évidemment par les hommes politiques dont on attend sans fin qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités, mais effectivement c'est par le réinvestissement du politique que se fera cette articulation entre espoirs individuels et espoirs collectifs, entre émotions individuelles, ce que nous avons tous vécu sans fin pendant 2015 tragiquement, et mise en forme, écriture politique. Il y a cette menace, ce risque d'abdiquer, voilà, de cette nécessité, mais vitale, du réinvestissement du politique.
Mathieu ?
Réinvestissement du politique, moi je suis frappé de lire de temps en temps chez un certain nombre de penseurs politiques, par exemple, le retour d'une réflexion sur le messianisme. On a vu ces dernières années, depuis Jacques Derrida jusqu'à Giorgio Agamben, une reprise de cette thématique du messianisme qu'ils vont emprunter chez Walter Benjamin, par exemple.
Donc de cette attitude vis-à-vis d'un Messie à venir qui, suspendant le présent, nous rend extrêmement légers face à l'état présent des choses et peut nous rendre radicaux dans nos désirs de transformation. Ma question est toute simple. Est-ce qu'on peut se passer du religieux en l'affaire? Est-ce que l'espoir a sa place et quel genre de place dans une société séculière? Est-ce qu'un espoir purement politique est possible?
Alors, nous pensons que oui. Nous pensons que
vous
oui.
Espérez que oui.
Nous espérons que oui. C'est-à-dire que c'est effectivement une question de type indécidable. Quand vous parlez d'une dimension messianique, si elle est dans le droit fil de la pensée juive, le Messie, d'une certaine façon, ne vient jamais, ou vient tout à la fin des temps, ou vient après le dernier jour lui-même, etc. La question est celle plutôt de l'inachevé, de l'ouverture de l'histoire. Et à ce titre-là, après, si vous avez parlé de Derrida, il y a aussi Rosenzweig, et puis d'autres, et il y a Ernst Bloch,
Quand vous dites inachevé déjà, vous parlez d'une fin, donc vous parlez d'un début, et vous êtes déjà, finalement, dans un cadre, on va dire, monothéiste. C'est-à-dire qu'il y avait une création et un aboutissement, un projet.
Non, pas nécessairement. Il y a toujours de l'histoire. La partie n'est pas jouée, elle n'est pas finie. Dante... imagine à la porte de l'enfer, comme vous savez, toi qui entres ici, abandonne tout espoir. Ça veut dire que le monde du damné, c'est un monde défini, c'est un monde clos, c'est un monde où rien ne peut bouger. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini, n'est pas clos, alors il reste quelque chose qu'on appelle l'espoir.
Il faut rouvrir les possibles.
Exact. Absolument.
Votre choix musical à tous les deux. Omer Klein, Rockets on the Balcony. Alors non pas Hope, mais Fearless Friday. Sans crainte.
Sans crainte, oui. Parce que je pense que l'espoir doit assumer, d'une certaine manière, l'incertitude, mais doit l'assumer sans avoir peur d'avoir peur, quoi.
Une histoire, donc, de cette notion de l'espoir. L'espoir a-t-il un avenir? Paru aux éditions Flammarion. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus au micro de la Grande Table. Monique Atlan et Roger Paul Droit. Merci à vous.
Merci à vous.
Mathieu Pot-Benville d'être venu également aujourd'hui. L'émission se termine un tout petit peu plus tôt puisque c'est aujourd'hui le jour du médiateur Bruno Denas.
France Culture, la Grande Table, le rendez-vous du médiateur.
Bonjour Bruno Denas, France Culture se lance donc à l'aventure.
Bonjour Caroline Brouet, bonjour à tous. Oui, France Culture se lance dans une bien belle aventure, celle du célébrissime Petit Reporter, je parlais de Tintin. Dès lundi, à 20h30, nous serons transportés en Égypte, en Inde, en Arabie, par la magie du son, à travers d'une création prestigieuse, Tintin et les cigares du Pharaon. Benjamin Habitant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur de cette série de 5 épisodes, une série qui devrait réjouir les auditeurs qui m'écrivent parfois pour fustiger les rediffusions de fiction ou pour trouver que France Culture manque parfois de moyens pour ses feuilletons. Là, Benjamin, la qualité est au rendez-vous avec carrément les acteurs de la Comédie Française.
Voilà, c'est une coproduction France Culture, la Comédie Française, Moulinsart. Et c'était très bien que ce soit la Comédie Française parce que, en réalité, j'ai l'impression que ça pouvait se faire qu'avec eux parce que c'est des gens qui ont tellement l'habitude de travailler ensemble et qui se connaissent tellement et qui ont un tel plaisir à inventer ensemble que, étant donné la rapidité avec laquelle on a dû travailler sur cette production, du fait de l'extrême densité de l'action, des corps, des événements, il fallait des gens qui aient cette capacité à être constamment en proposition, à répondre du tac au tac aux indications, être dans l'invention permanente.
Et puis aussi une musique, j'allais dire, riche, avec une musique originale et l'Orchestre National de France.
Donc la musique, elle a été composée pour le projet par Olivier Davio, avec qui j'ai beaucoup travaillé en amont, et on a vraiment construit ensemble à deux l'identité sonore de la fiction, c'est-à-dire que la musique et les principaux partis pris de réalisation se sont un peu tissés dès le début ensemble, quoi, enfin construits l'un avec l'autre.
Donc on va se mettre tout de suite dans l'ambiance.
Allez Milou, il n'y a pas une seconde à perdre. Filons.
Il est là, je crois qu'il
s'enfuit. À mort ! À mort, l'espion !
Plus vite, Milou. Il faut atteindre la porte de la ville.
À mort ! À mort, l'espion ! Attrapez-le ! Attrapez-le !
Alors, on a reconnu Tintin, on a même entendu Milou, tous deux poursuivis par des militaires. Ça se situe à quel moment, cette action?
Alors, c'est à peu près au milieu de l'album. C'est au moment où Tintin s'évade d'une garnison dans laquelle il a été enrôlé de force en Arabie et puis s'apprête à s'échapper en avion et rejoindre ensuite les Indes.
Alors, on connaît tous, évidemment, Les Cigares du Pharaon, mais là, on est dans l'histoire. Alors, comment adapte-t-on une BD?
Donc, Katel Guillou, qui a fait un travail d'adaptation, donc elle a pris la bande dessinée et elle a essayé d'en faire des scènes dialoguées. On a pris le parti de ne pas avoir de narrateur, c'est-à-dire qu'elle n'a pas introduit un personnage supplémentaire qui aurait fait un commentaire pour expliquer où on en est, qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que là...
Qui aurait pu alourdir, en fait, l'action.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire on a pris un parti plus cinématographique, on va dire. On est vraiment dans l'action et puis c'est à l'auditeur en fait de construire lui-même les images sonores. Enfin bon, c'est ce qu'on fait habituellement en fiction bien sûr, mais là le cas particulier c'est que dans une bande dessinée il y a déjà des cadres, il y a des mouvements, il y a des intentions de jeu qui sont indiquées, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'informations à traiter dans une bande dessinée que dans un scénario classique. Et on a toujours travaillé avec la bande dessinée, avec nous. On avait toujours l'image sous les yeux et généralement pour diriger les comédiens il suffisait de leur montrer l'image et en fait tout était dit, il n'y avait pas besoin tellement de direction d'acteur parce que le trait d'Hergé est tellement riche et tellement précis que tout y était.
Alors justement, pénétrons un peu dans les coulisses du tournage, quelles en sont véritablement les étapes?
On se retrouve donc dans un studio qui est conçu pour produire des fictions radiophoniques, donc ce sont des grands studios dans lesquels on peut dessiner des espaces qu'on construit avec des panneaux.
Donc à Radio France.
À Radio France, qui sont très grands et qui comportent chacun une chambre anéchoïque, c'est-à-dire une chambre sourde qui absorbe le son, et une chambre claire qui, au contraire, va augmenter la résonance. Et puis, toute une partie qui est modulable avec des panneaux dans laquelle on va dessiner des espaces. Donc on travaille en fait à peu près comme au cinéma.
On constitue des ambiances en quelque sorte.
Oui, on constitue des espaces sonores avec des dispositifs de prise de son qui sont à chaque fois conçus par le chef opérateur et l'opérateur, enfin par les techniciens du son qui travaillent avec nous. En fait, il y a donc toute une équipe, il y a ces deux personnes-là, un assistant à la réalisation, un bruiteur, là on a même eu deux bruiteuses, et puis un réalisateur et des comédiens. Et tous ces gens concourent à construire ensemble une image sonore, une image mentale que l'auditeur va parachever en finissant de la rêver en quelque sorte.
Alors faites-nous justement rêver, vous parliez des bruiteurs, comment ils travaillent?
Ils travaillent de façon totalement empirique et fascinante. Ils sont entourés de tout un bric-à-brac. Alors le problème avec Tintin, c'est qu'il est très mobile. Il tient pas en place. Et du coup, nous, on a passé notre temps véritablement à courir après Tintin. Quoi. C'était comme si on était Milou. On n'a pas eu une minute pour souffler parce que Tintin n'arrête pas de passer d'un endroit à l'autre, d'un décor à l'autre. Et donc, on a été constamment en train de désinstaller, réinstaller des décors. Tintin n'arrête pas de marcher sur des revêtements de sol très différents. Donc, à un moment donné, il fallait bruiter les pas de Tintin dans le sable. Et puis, 5 minutes plus tard, il se retrouvait dans la forêt. On utilise des bandes magnétiques froissées pour restituer un son qui est très proche de quelqu'un qui marcherait dans des feuilles. Et puis, elles ont comme ça des recettes. Enfin, les bruiteurs ont chacun leurs recettes pour susciter des images. Ensuite, en les écoutant, on n'imagine absolument pas comment ça a pu être construit. Donc, c'est un vrai savoir-faire qui est assez unique.
Et combien de temps faut-il pour réaliser un tel feuilleton?
Oh ben là, on a commencé à enregistrer au mois de juin 2015 et on a terminé le mixage en décembre. Donc ça s'est étalé sur plus de 6 mois. En tout, on a dû enregistrer une 60aine d'heures. Et puis, il doit y avoir une 100aine d'heures de montage et une 100aine d'heures de mixage.
Et il y aura d'autres épisodes?
Voilà, on va faire 5 albums en tout, en studio, comme ça. Il va y avoir Le Lotus Bleu, L'Affaire Tournesol, Les 7 boules de cristal, Le Temple du Soleil. Et ensuite, il y a un projet de faire Les Bijoux de la Castafiore en concert fiction, au 104, avec encore l'orchestre.
En direct?
Non, pas en direct, mais en public.
Alors évidemment, en tant que médiateur, je m'attends à ce qu'il y ait des auditeurs qui m'écrivent pour dire que Tintin, c'est pas forcément culturel, que ça passe sa place sur France Culture.
Ouais.
Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Les auditeurs, ou d'ailleurs certains collaborateurs éminents de cette chaîne, c'est une idée qui est assez répandue, l'idée que la bande dessinée est un art mineur. Moi, je vois pas l'intérêt, en fait, d'établir cette hiérarchie à partir du moment où on considère un contenu culturel. Pour moi, on le considère pour lui-même et pas en le comparant à tous les autres pour contrôler sa légitimité a priori.
La BD, c'est le 9e art quand même.
Oui, c'est ça. La BD, c'est le 9e art. Et je pense que, enfin, la bande dessinée, je pense que pour la culture des gens de ma génération, c'est un pan énorme de la culture. Je trouve ça normal et tout à fait souhaitable que cette chaîne continue à élargir la part qu'elle offre à la bande dessinée.
Benjamin Habitant, merci pour toutes ces précisions. Et rendez-vous lundi à 20h30 sur France Culture pour le premier épisode des Cigares du Pharaon. Alors, pour terminer, Caroline, je rappelle que les auditeurs peuvent m'écrire sur le site mediateur.radiofrance.fr. Et retrouver également des articles explicatifs.
C'était le rendez-vous du médiateur de Bruno Donas. On vous retrouve, Bruno, dans 15 jours. Vous pouvez retrouver La Grande Table sur Twitter, sur Facebook, la réécouter, la podcaster sur notre site franceculture.fr. La Grande Table, c'est Raphaël Bourgois, Clémence Marie, Jeanne Léos, Henri Leblanc, Antoine Sims, à la réalisation Philippe Baudouin, et la prise de son aujourd'hui, c'était Thibaut Germèze.